17h sur Radio Orient. Bonsoir à tous. Votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, Donald Trump s'adresse ce soir aux Américains. Après avoir annoncé que la guerre s'arrêterait dans 2 ou 3 semaines, il affirme que l'Iran a réclamé un cessez-le-feu. Le chef de la Maison-Blanche pose toujours comme condition la réouverture du détroit d'Ormuz, ce que refuse Téhéran. Nous reviendrons dans le dossier du jour sur les tensions entre les États-Unis et plusieurs pays européens, dont la France, accusée de ne pas assez coopérer dans la guerre contre l'Iran. Le président américain brandit à nouveau la menace d'un retrait de l'OTAN. Enfin, en France, la Cour de cassation annule la libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah, qui réside désormais au Liban. Que dira Donald Trump cette nuit aux Américains? Le chef de la Maison-Blanche s'exprimera en prime time pour évoquer ses projets en Iran plus d'un mois après le début de la guerre. Sur son réseau social, il affirme que, je cite, le président du nouveau régime iranien a demandé un cessez-le-feu. Mais Donald Trump affirme que la guerre s'arrêtera seulement après la réouverture du détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution viennent de lui répondre, le détroit d'Ormuz reste fermé aux ennemis de l'Iran. Hier soir, le président américain a assuré que les États-Unis allaient quitter l'Iran très bientôt, dans 2 ou 3 semaines, ce qui a entraîné une hausse des bourses au niveau mondial. Benjamin Netanyahou a lui déclaré que désormais l'Iran ne constitue plus une menace existentielle pour Israël. Pour autant, il affirme que la guerre contre l'Iran n'est pas terminée. Au Liban, un haut dirigeant du Hezbollah tué dans une frappe israélienne à Beyrouth. Il s'agit de Youssef Hachem, le responsable militaire pour l'Irak au sein du Hezbollah. Le ministère libanais de la Santé a par ailleurs réactualisé le bilan des frappes israéliennes au Liban. Elles ont tué 1318 personnes. Parmi les victimes, 91 femmes, 125 enfants et 53 membres du personnel médical. Une journaliste américaine a été enlevée en Irak par un groupe armé. Shelley Kittleson est une journaliste qui collabore notamment avec le site spécialisé sur le Moyen-Orient Al Monitor. L'Irak a un membre d'un groupe pro-iranien soupçonné d'être lié à l'enlèvement. En France, la libération conditionnelle accordée en juillet dernier au militant libanais pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah a été annulée par la Cour de cassation. Une décision qui restera cependant sans effet puisque l'ancien militant condamné pour terrorisme s'est installé depuis au Liban. La Cour de cassation affirme qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, et ce pendant une période d'au moins 1 an. Enfin, le député de Gironde, Loïc Prudhomme, a décidé de quitter LFI. Il explique avoir des divergences d'appréciation sur la stratégie déployée par le parti de Jean-Luc Mélenchon depuis 2022. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. L'OTAN, un tigre de papier, selon Donald Trump. Le président américain menace à nouveau de quitter l'alliance. La défiance vis-à-vis de l'OTAN n'est pas nouvelle. Mais avec la guerre au Moyen-Orient, elle prend de nouvelles proportions. Marc-Aurel Barrez.
Je n'ai jamais été convaincu par l'OTAN, j'ai toujours su qu'il s'agissait d'un tigre de papier, et Poutine le sait aussi. C'est ce qu'a affirmé Donald Trump dans une interview au Daily Telegraph ce mercredi. En cause, selon lui, le comportement très peu coopératif des chancelleries européennes dans la guerre au Moyen-Orient, le président a accusé Paris d'avoir refusé le survol de son territoire à des avions américains. Il transportait du matériel militaire en direction d'Israël. Mais la France n'est pas le seul pays concerné par ces critiques. D'autres pays de l'OTAN, dont l'Espagne et l'Italie, pays sont aussi pris pour cible. En réponse, dans une interview à la chaîne japonaise NHK, Emmanuel Macron a rappelé que la France n'avait pas été consultée sur le lancement de la guerre par la coalition israélo-américaine. Il a ajouté « Il n'y a rien de nouveau, il ne faut pas s'en étonner ». Le Premier ministre britannique Keir Starmer, de son côté, a défendu l'OTAN comme l'alliance militaire la plus efficace que le monde ait jamais connue. En effet, depuis le retour du mania de l'immobilier au pouvoir en janvier 2025, les épisodes de tension et de crispation se multiplient. Sur le dernier en date, la menace d'annexer le Groenland, ce vaste territoire arctique sous souveraineté du Danemark, locataire de la Maison-Blanche, avait soudainement fait machine arrière. Avec la guerre au Moyen-Orient, le lien transatlantique est de nouveau mis à l'épreuve.
Merci Marc Aurel Barrez. Et en visite au Japon, Emmanuel Macron a par ailleurs appelé à nouveau au respect du droit international. On l'écoute.
Nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. C'est le fait aussi que depuis février 2022, avec constance, le Japon se tient aux côtés des Européens pour rappeler l'importance d'une paix juste et durable, et le respect du droit international. C'est aussi ce qui nous lie dans une stratégie indo-pacifique. La France, en effet, par ses territoires ultramarins, sa présence militaire est présente dans cette région. Nous avons depuis 2018 une stratégie indo-pacifique et nous n'avons jamais dévié de cet axe, qui est de faire de cette région un espace libre où la liberté, la souveraineté est pleinement respectée par tous, aucune hégémonie ne prévaut, et qui dans les domaines sécuritaires, économiques, climatiques, permet d'agir avec tous les pays de la région. C'est exactement cet esprit qui avait nourri le partenariat franco-japonais dans l'Indo-Pacifique que j'avais inauguré en 2019 avec Shinzo Abe, et qu'il me soit permis en cet instant de lui rendre respectueusement hommage.
Enfin, nous revenons sur les attaques à connotation raciste subies par le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Hier, le Premier ministre Sébastien Lecornu lui a apporté son soutien. Le chef du gouvernement répondait à une question de Stéphane Peu, le président du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Stéphane Peu au micro de François-Xavier de Calonne.
La satisfaction quand même dans la réponse du Premier ministre, c'est que d'abord par les propos du ministre de l'Intérieur avant et par ceux du Premier ministre, il y a quand même une prise de position claire sur la dérive de ce débat qu'on a constaté depuis quelques jours. Et puis ensuite, à la plainte qu'a annoncé déposer Bali Bagayoko, le Premier ministre a fait savoir qu'il demanderait au préfet, au nom de l'État français, de se constituer partie civile à l'appui de cette plainte. Donc c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'État considère, à juste titre, qu'il ne peut rester spectateur ou indifférent à l'évolution d'un débat public qui, je le rappelle, traite la question du racisme comme une opinion. Or, en France, ce n'est pas une opinion, le racisme. L'antisémitisme, le négationnisme, ce ne sont pas des opinions. Ce sont des délits au regard du droit français. Et donc, on ne peut pas tenir des propos racistes. On sait ce que ça a généré de drames dans l'histoire de l'humanité. Et donc, ouais, hors de question de tolérer. Et le Premier ministre l'a confirmé. Bon, on peut toujours dire que c'est un peu tard, mais enfin, voilà, c'est bien. Et c'était le sens et le but de ma question, donc je suis plutôt content.
Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, Stéphane. De Saint-Denis, et donc de Seine-Saint-Denis. Oui. Justement, le regard porté sur ce département qui dispose de très grandes richesses, pourquoi ces richesses ne sont-elles pas suffisamment mises en lumière et que faudrait-il faire pour qu'elles le soient? Ce n'est pas uniquement le rôle des médias, même si ça l'est aussi.
Oui, non, mais moi j'ai fait deux rapports parlementaires sur la Seine-Saint-Denis. D'abord, je pense qu'il faut que c'est le département le plus jeune de la France hexagonale. Donc quand on a le département le plus jeune de la France hexagonale, un pays qui se projette vers l'avenir est un pays qui fait confiance à sa jeunesse et qui mise sur sa jeunesse. Et donc si ce pays voulait miser sur sa jeunesse, il miserait beaucoup sur la Seine-Saint-Denis, il ne le fait pas assez.
Le député PCF Stéphane Peu, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci à Raymond Jouan, à la technique. Bonne suite de programme sur Radio Orient.